Jésus de Nazareth est, bien sûr, au cœur du Nouveau Testament. Il occupe une place importante dans le Coran également. Les deux livres lui accordent le titre de prophète. Issa, la version coranique du nom Jésus, paraît 25 fois dans le Coran, sans parler des passages qui emploient d'autres termes pour le désigner. On ne peut nier l'importance de Jésus, ni pour les chrétiens, ni pour les musulmans. Mais aurait-on raison d'élever Jésus en importance au-dessus des autres prophètes de Dieu? Pourquoi recevrait-il plus d'attention que tous les autres? Une première chose qui nous frappe au sujet de Jésus est que sa venue avait été prédite par les autres prophètes de Dieu, non pas une seule fois ou d'une manière obscure et contestée, mais clairement et dans différents écrits. Le peuple juif ne comprenait pas bien le caractère du Messie et de l'œuvre que Dieu lui donnerait à faire. Mais certaines choses étaient claires pour eux, comme nous le voyons en Matthieu 2, 1 à 7. Jésus naquit à Bethléem, localité du pays de Judée, à l'époque où Hérode était roi. Après sa naissance, des savants, spécialistes des étoiles, vinrent de l'Est et arrivèrent à Jérusalem. Ils demandèrent: où est l'enfant qui vient de naître et qui sera le roi des Juifs? Nous avons vu son étoile apparaître à l'est et nous sommes venus pour l'adorer. Quand le roi Hérode apprit cela, il fut très inquiet, ainsi que tous les habitants de Jérusalem. Il assembla tous les chefs des prêtres et les maîtres de la loi de son peuple et leur demanda où devait naître le Messie. Ils lui répondirent: à Bethléem, en Judée. Car voici ce que le prophète a écrit. Et toi, Bethléem, du pays de Judée, tu n'es certainement pas la moins importante des localités de Judée, car c'est de toi que viendra un chef qui conduira mon peuple Israël. Le passage auquel les prêtres et les maîtres de la loi se sont référés se trouve dans le livre du prophète Michée et fut écrit 700 ans avant la naissance de Jésus. L'aspect miraculeux de la naissance de Jésus avait également été prédit. C'est le prophète Ésaïe qui avait annoncé qu'une vierge se trouverait enceinte et accoucherait d'un fils qu'on appellerait Emmanuel, l'un des noms qui ont toujours été employés pour Jésus. Cette prophétie date du 8e siècle avant Christ, Ésaïe 7, verset 14. Jésus était réputé pour les miracles extraordinaires qu'il faisait. Les prophètes en avaient parlé bien auparavant. En Ésaïe 35, versets 4 à 6, nous lisons: « Il viendra lui-même et vous sauvera. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteux sautera comme un cerf, et la langue du muet éclatera de joie. » Après avoir été mis en prison par Hérode, Jean-Baptiste se demandait s'il s'était trompé concernant Jésus. Si le Messie était là, comment Jean pourrait-il subir une si grande injustice pour avoir prêché la vérité? Il envoya donc des messagers pour demander à Jésus s'il était bien celui qu'ils attendaient. Jésus leur répondit: « Allez raconter à Jean ce que vous entendez et voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont guéris, les sourds entendent, les morts reviennent à la vie, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui qui n'abandonnera pas la foi en moi. » Matthieu 11, versets 4 à 6. Jean avait demandé à Jésus s'il était bien celui dont on savait qu'il devait venir. Jésus fait remarquer les miracles qu'il faisait et qui était l'accomplissement d'une prophétie concernant celui qui devait venir. Quand il s'agit de sa mort, les prophéties concernant le Christ se multiplient. Il fut annoncé d'avance qu'il entrerait dans Jérusalem assis sur un âne, qu'il serait trahi par un ami et abandonné par les autres, que ses mains et ses pieds seraient percés, qu'on tirerait au sort pour se partager ses vêtements, qu'il aurait soif et on lui donnerait du vinaigre à boire, que ses os ne seraient pas brisés et qu'on lui percerait le côté. Les prophètes avaient même prédit les mots exacts que les moqueurs employeraient pour l'humilier. Il a remis son sort au Seigneur, eh bien que le Seigneur le tire d'affaire. Le Seigneur l'aime, eh bien qu'il le sauve. Psaume 22, verset 9, et Matthieu, chapitre 27, verset 43. Le prophète Zacharie écrivit ceci environ 430 ans avant la mort du Christ. Ils pesèrent pour mon salaire 30 sicles d'argent. L'Éternel me dit, jette-le au potier, ce prix magnifique auquel ils m'ont estimé. Et je pris les 30 sicles d'argent, et je les jetai dans la maison de l'Éternel pour le potier. Zacharie 11, versets 12 et 13. Ceux qui connaissent déjà l'histoire savent que Judas, celui qui a trahi Jésus, avait reçu exactement 30 pièces d'argent pour avoir donné aux ennemis du Seigneur les renseignements qu'il voulait pour pouvoir arrêter Jésus loin des foules. Mais quand il a vu comment les choses se sont déroulées par la suite, Judas a été pris de remords. La Bible dit que Judas rapporta les 30 pièces d'argent et les jeta dans le temple avant d'aller se pendre. Les chefs des prêtres ramassèrent l'argent et achetèrent avec cette somme le champ du potier pour y établir un cimetière d'étrangers. Matthieu 27, versets 3 à 7. Dans le chapitre 53 du livre du prophète Ésaïe, nous trouvons que le Messie serait méprisé des hommes, habitué à la souffrance et rejeté par son propre peuple, mais aussi qu'il serait châtié pour les péchés des autres, qu'il intercéderait pour les coupables, qu'il serait mis au nombre des criminels, que son tombeau serait avec le riche, et qu'il ressusciterait d'entre les morts. En plus de toutes ces prophéties, Dieu envoya un messager spécial juste pour annoncer l'arrivée de Jésus. Le Coran reconnaît cet individu comme un prophète, un homme intègre, un homme qui disait la vérité au peuple. Ce messager, que la Bible appelle Jean, et que les musulmans connaissent sous le nom de Yahya, s'identifiait simplement comme une voix, la voix de quelqu'un qui criait, préparait un chemin bien droit pour le Seigneur. Jean chapitre 1, verset 23. Disons en passant que même cet aspect de la vie de Jésus avait été prophétisé. Malachie, le dernier livre de l'Ancien Testament, contient l'annonce que Dieu enverrait son messager afin d'ouvrir le chemin en appelant le peuple à la repentance. Malachie 3, verset 1. Quand un chef d'État se rend quelque part, il est de coutume d'y envoyer des gens bien à l'avance afin qu'ils soient accueillis d'une manière qui convienne à sa dignité. Voilà ce que Jean faisait pour Jésus, le roi qui venait pour apporter une bénédiction aux uns et un jugement sur les autres. L'évangile de Luc, chapitre 3, versets 15 à 17, dit « Le peuple attendait, plein d'espoir. Chacun pensait que Jean était peut-être le Messie. Jean leur dit alors à tous, « Moi, je vous baptise avec de l'eau, mais quelqu'un de plus puissant que moi va venir. Je ne suis pas même assez bon pour délier la courroie de ses sandales. Il vous baptisera avec le Saint-Esprit et avec du feu. » Il tient en sa main la pelle à vanner pour séparer le grain de la paille. Il amassera le grain dans son grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint jamais. Quand Jésus est venu se faire baptiser, Jean dit à la foule, « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. C'est de lui que j'ai parlé en disant, « Un homme vient après moi, mais il est plus grand que moi. » Jean 1, versets 29 et 30. La mission de Jean était de préparer le peuple à recevoir dignement cet autre prophète, Jésus. Juste la préparation pour la venue de Jésus doit nous impressionner profondément. Sa vie et ses œuvres le feront davantage. Plusieurs passages de la Bible soulignent l'idée que Jésus n'a pas péché. En 2 Corinthiens 5, verset 21, l'apôtre Paul écrit « Le Christ était sans péché, mais Dieu l'a chargé de notre péché. » L'apôtre Pierre aussi affirme la même vérité. Il n'a pas commis de péché. On n'a jamais entendu de mensonge sortir de sa bouche. 1 Pierre 2, verset 22. Pierre cite ici une parole du prophète Ésaïe concernant le Christ. On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'eût point commis de violence et qu'il n'y eût point eu de fraude dans sa bouche. Mais ce n'est pas simplement les autres qui ont prétendu que Jésus n'avait pas de péché. Jésus lui-même a lancé ce défi à ses adversaires. Qui parmi vous peut prouver que j'ai péché? Et si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas? Jean 8, verset 46. Muhammad n'a pas essayé de prouver que Jésus avait commis du péché. Au contraire, nous voyons dans la sourate 19, ayah 19 du Coran, que l'ange dit à Marie, « Je suis en fait un messager de ton Seigneur pour te faire don d'un fils pur. » L'un des commentateurs musulmans du nom d'Er Razi dit que le titre de Messie fut donné à Jésus parce qu'il était libre de la souillure du péché. Étrangement, cet état de pureté n'est attribué à aucun autre prophète dans le Coran. Dans la Bible, nous voyons les faiblesses et parfois même les péchés des autres prophètes. Adam a mangé le fruit défendu. Noé s'est enivré. Abraham a menti. Jacob a trompé son père. David a commis l'adultère. Salomon a adoré les idoles de ses femmes. Même Muhammad reconnaît avoir du péché dans sa vie. Plus d'un verset du Coran l'exhorte à implorer le pardon de son péché. La 48e sourate commence par ces mots qu'Allah adresse à Muhammad. En vérité, nous t'avons accordé une victoire éclatante afin qu'Allah te pardonne tes péchés, passés et futurs, qu'il parachève sur toi son bienfait et te guide sur une voie droite. Et en plus, Muhammad lui-même avoue qu'il ne connaît pas son sort éternel. Dit, je ne suis pas une innovation, une merveille ou quelqu'un de spécial parmi les messagers, et je ne sais pas ce qu'on fera de moi ni de vous. Je ne fais que suivre ce qui m'est révélé. Sourate 46, ayat 9. L'apôtre Jean dit, si nous disons que nous sommes sans péché, nous nous trompons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. 1 Jean 1, verset 8. Mais ce même Jean dit au sujet de Jésus, il n'y a point de péché en lui. 1 Jean 3, verset 5. Certainement, Jésus se distingue nettement de tous les autres que les hommes ont reconnus comme prophètes.